Chapitre 11. Richard se leva avec plus d'entrain que de coutume et lui dit « Souhaite-moi bonne chance. Archie a précisé que nous serions absents toute la journée. » Nicole, qui avait des réveils difficiles, se contenta d'entrouvrir les paupières. Elle les referma sitôt après avoir constaté que tout était encore obscur à l'extérieur. « Je boude d'impatience. » avoua Richard. Les octopodes étaient sérieux lorsqu'ils disaient qu'ils me trouveraient une occupation. Il ne leur reste qu'à déterminer ce qui me convient le mieux. Il alla dans la cuisine préparer son petit déjeuner et revint avec un gros fruit rose, son préféré.
« Je suppose que je suis censé te féliciter. »«
Absolument. C'est peut-être le jour le plus important de ma nouvelle existence dans la cité d'Émeraude. » »«
Tu es certain qu'Archie te cherche un emploi ?»
Oui, c'est en tout cas ce qu'il m'a affirmé.
Mais pourquoi partez-vous si tôt?
Parce qu'il a prévu de me montrer beaucoup de choses, je présume. Embrasse-moi, il ne va pas tarder.
Nicole s'exécuta, puis referma les yeux. Les immenses locaux rectangulaires de la banque d'Embryon se situaient loin au sud de l'agglomération, à l'extrémité de la plaine centrale australe. À moins d'un kilomètre plus au sud, trois escaliers de 10 000 marches donnaient accès à la cuvette polaire. Au-dessus du bâtiment, dans la pénombre de Rama, saillaient les structures et les arcs boutants de la Grande Corne et de ses 6 tours effilées. Richard et Archie avaient pris un autruchosaure à la périphérie de la cité. Précédés par 3 lucioles, ils avaient traversé le domaine de l'alternative en quelques minutes. Dans les marches du sud de ce territoire, tout ressemblait à l'hémicylindre nord de Rama 2 avant la construction des 2 habitats. Ils entrèrent dans la banque d'Embryon par des doubles portes donnant dans une vaste salle de conférence où les attendaient des octopodes. Richard utiliserait son interprète électronique et ses interlocuteurs liraient ses propos sur ses lèvres. Après les échanges de politesse d'usage, l'un d'eux les guida vers des consoles. « Près de 10 000 000 d'embryons sont stockés ici », expliqua-t-il. « Ils représentent plus de 100 000 espèces et 3 fois plus d'hybrides. Ces êtres ont une durée de vie allant d'un demi-terre à 10 000 de vos années. À l'état d'adulte, leur taille va du 1/1000 de micron à la grosseur de ce bâtiment. Pour les conserver de façon optimale, nous avons reconstitué 1 millier d'environnements dont nous contrôlons la pression, la température et l'atmosphère. Un important système de surveillance et de traitement de données gère tant les conditions requises pour chaque milieu que le développement des embryons en phase de croissance. Il contrôle en outre les écrans de cette salle et de tous les services de recherche des étages supérieurs.
L'esprit de Richard s'emballait. Quel projet fantastique! Ils stockent les semences de toutes les plantes et de tous les animaux dont ils auront peut-être besoin un jour. Nous pouvons ainsi fournir des spécimens aux 200 généticiens chargés de créer des formes mutées utiles à notre société. Pourriez-vous m'en montrer un exemple?
« Certainement, » répondit l'octopode. Il rampa vers le pupitre et enfonça une série de touches colorées avec ses tentacules. Une image apparut sur le mur. « Je crois que vous connaissez une de nos principales méthodes de production d'énergie. Le principe est très simple. Les créatures aquatiques circulaires génèrent et emmagasinent des charges électriques à l'intérieur de leur corps. Nous les captons par un grillage contre lequel elles doivent se coller pour atteindre leur nourriture. Bien que ce soit satisfaisant, il serait possible d'améliorer le rendement. Regardez ce gros plan, en accéléré, d'une 12 douzaine de ces êtres. Pendant cette séquence, chacun d'eux effectue 3 ou 4 cycles complets. Que peut-on en déduire ?
Richard observa les images avec soin.
Les disques s'assombrissent après leur décharge, mais redeviennent lumineux sitôt après.
Si l'intensité de l'éclat est proportionnelle au potentiel électrique, il suffirait d'accroître leur appétit, et donc d'accélérer la fréquence de leur repas, pour augmenter la production, dit-il, en se demandant brusquement s'il ne passait pas un examen.
Tout juste, répondit l'octopode.
Archie adressa un message à son congénère, mais il fut si bref que Richard n'eut pas le temps de braquer vers lui son interprète. Une autre image apparut.
Voici trois variantes génétiques en cours d'étude. La plus performante est sur la gauche. Elle se nourrit deux fois plus souvent que les disques utilisés actuellement. Cependant, un déséquilibre métabolique accroît sa vulnérabilité aux maladies transmissibles. Nous devons tenir compte de tous les facteurs.
Les démonstrations se succédaient. Archie laissait à d'autres octopodes le soin de lui donner des cours et de répondre à ses questions. Dans une section, une conférence eut pour thème les relations existantes entre la banque d'embryons, le parc zoologique du domaine de l'alternative et la jungle qui formait un anneau sur la circonférence de Rama. Toutes les formes de vie présentes dans cet hémisphère sont soit en symbiose active, soit en observation dans un secteur isolé, le zoo, la forêt, ou, dans votre cas, à l'intérieur même de la cité d'Émeraude, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'expérimentations ici même. Ils suivirent un long couloir, puis assistèrent à une réunion de 6 chercheurs qui devaient se prononcer sur le remplacement d'une unité symbiotique de 4 espèces différentes. Cette chaîne produisait une substance gélatineuse utilisée contre une maladie répandue de la lentille des octopodes. Richard écouta avec fascination la comparaison des deux systèmes. Ressources consommées, taux de reproduction, interventions requises, coefficients de fiabilité et prévisions comportementales. Les octopodes décidèrent d'installer les nouveaux symbiotes dans un des 3 secteurs actuels de fabrication et de prendre une décision définitive au vu des résultats. En milieu de journée, ils eurent droit à une pause d'un demi-terre. Sur une suggestion de Richard, ils se munirent de leur déjeuner, montèrent sur les autruchosaures, réquisitionnèrent 2 lucioles et allèrent se promener dans la plaine centrale. Après avoir mis pied à terre, l'homme leva les yeux vers l'immensité de Rama et écarta les bras pour demander « Qui parmi vous s'inquiète ou se préoccupe de la signification de tout ceci ?» L'octopode déclara qu'il ne comprenait pas la question. « Je suis convaincu du contraire, » rétorqua Richard en souriant. « Vous esquivez ce sujet parce que vos supérieurs ont prévu de l'aborder à une date ultérieure. Je ne me réfère pas au service de la banque d'embryons où je pourrais apporter une contribution justifiant qu'on subvienne à mes besoins. Non, je me demande pourquoi nous sommes, humains, Cécile, Avien, vous et votre ménagerie, à bord de cet immense vaisseau qui se dirige vers une étoile que nous appelons Tau Ceti. » Archie resta muet près de 30 secondes.
Nos cousins, qui ont séjourné au point nodal, ont appris qu'une intelligence supérieure répertoriait les formes de vie de la galaxie, et plus particulièrement, les espèces spatio-pérégrines. Pour permettre une observation approfondie de notre peuple, nous avons constitué une colonie qui s'est installée dans cette nef. Vous ne savez rien de plus que nous sur les organisateurs de notre croisière ?
Je dirais même que nous détenons moins d'informations. Nul octopode actuellement présent dans Rama n'a résidé au point nodal. Les seuls qui ont des renseignements de première main sur cette station, c'est vous, votre famille et le fragment de Cécile conservé aux eaux.
Et vous ne vous posez pas de questions ?
On nous enseigne à ne pas perdre notre temps en vaines interrogations. Quand les données sont insuffisantes,
pour permettre de trouver une réponse.
Comment savez-vous tant de choses sur les Aviens et les Céciles ?
Demanda Richard à brûle-pourpoint. Désolé, mais je ne peux pas vous le dire à présent.
Comme vous vous en doutez, on m'a chargé de déterminer si vous seriez ou non heureux d'accepter un emploi à la banque d'embryons, et si oui, dans quel service ?
Le trajet est un peu long, fit Richard en riant.
Mais oui, Archie, tout me fascine, surtout le département encyclopédique. J'aimerais y travailler pour étendre mes maigres connaissances en biologie.
Mais pourquoi me posez-vous cette question ?
D'autres démonstrations ne sont-elles pas prévues ?
Si. Mais vous avez vu l'essentiel ? Le reste se rapporte à la microbiologie ?
Et comme vous ne pouvez pas communiquer avec les mini-morphes, une affectation dans ce secteur ne vous conviendrait pas.
L'accès au sous-sol du laboratoire de microbiologie était réservé aux octopodes dûment accrédités. Quand Archie eut précisé qu'on y élevait des quadroïdes volants, Richard insista malgré tout pour le visiter. Il dut attendre plusieurs fengs l'obtention d'une autorisation. Puis, deux octopodes les escortèrent vers le bas d'une succession de plans inclinés.
« Nous avons opté pour le sous-sol afin de bénéficier d'une isolation et d'une protection accrue, » dit Archie.
« Nous avons trois autres installations de ce type réparties sur notre territoire. »«
Bon Dieu !»
se dit Richard lorsqu'ils s'avancèrent sur une plateforme qui surplombait une vaste salle rectangulaire. Plusieurs mètres en contrebas, une centaine de mini-morphes exécutaient diverses tâches. Huit treillis de 5 mètres sur 2 étaient suspendus au plafond. Sous chacun d'eux, Richard voyait un gros ovoïde. Il pensa à d'énormes noix dans une gangue de lianes ou un filet membraneux.
« J'ai vu la même chose il y a longtemps, » se dit-il, « sous New York juste avant ma première rencontre, avec un de vos cousins. Nicole et moi avons été terrifiés.
J'ai lu un rapport sur cet incident quand j'étudiais les archives de nos prédécesseurs. Mais des détails avaient été effacés lors de la compression de ces fichiers.
Je venais de placer deux robots miniatures dans le petit métro. Au bout du tunnel, ils ont pénétré dans une salle identique et été capturés.
C'était une pouponnière de quadroïdes que nos cousins ont voulu protéger. Le processus est d'une extrême simplicité. »
Il fit signe à leur guide de fournir des explications.
Les reines passent leur gestation dans les compartiments spéciaux que vous pouvez voir sur les côtés de cette salle. Chacune d'elles pond des milliers d'œufs que nous récoltons et plaçons dans les incubateurs ovoïdes dont la température très élevée accélère leur développement. L'épaisse membrane qui les entoure absorbe la chaleur et permet aux mini-morphes d'assurer leur surveillance.
Richard pensait à ce qui s'était passé bien des années plus tôt.
Tout est évident désormais. Quant au petit métro, c'est le moyen de transport des mini-morphes qui vont à leur boulot.
Des sondes nous signalent quand les quadroïdes sont prêts à essaimer. Les treillis qui surplombent les cocons sont imprégnés de produits chimiques appropriés, quelques fingues avant l'ouverture automatique des incubateurs. Attirés par l'odeur, les nouvelles reines s'envolent. Des nuages de mâles, opaques en dépit de leur taille microscopique, les suivent. Les quadroïdes sont ramassés sur les treillis et soumis à une formation collective.
« Très astucieux, » dit Richard.
Mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi ils travaillent pour vous.
Ils ont été génétiquement conditionnés à exécuter nos instructions, répondit Archie.
Les mini-morphes qui parlent leur langage chimique les informent qu'ils recevront de la nourriture s'ils font ce qu'on leur demande. Ils se voient en outre accorder les plaisirs du sexe après avoir rendu de bons et loyaux services pendant un certain temps.
Sur une portée ou un essaim, combien de quadroïdes sont dociles ?
Le taux d'échec pour la première image est d'environ 10%,
répondit le technicien. Une fois l'habitude prise et le cycle des récompenses renforcé, il est insignifiant.
Sacrément impressionnant, déclara Richard.
Lors du retour vers la cité d'Émeraude, Richard et Archie comparèrent les mérites des systèmes biologiques et non biologiques. Ce fut une discussion philosophique qui ne leur permit pas d'arriver à de nombreuses conclusions. Ils reconnurent toutefois la suprématie de l'électronique pour les fonctions de stockage, d'accès et de manipulation de quantités importantes de données. Ils approchaient de l'agglomération quand le dôme s'éteignit brusquement. Presque aussitôt, deux lucioles vinrent éclairer le chemin des autruchosaures. Lorsqu'ils entrèrent dans les faubourgs du domaine de l'alternative, Richard crut voir quelque chose voler dans les ténèbres, loin sur sa droite.
« Que sont devenus Tammy et Timmy ? » demanda-t-il.
« Ils se sont accouplés et ont eu des petits ?
Nous élevons leurs oisillons dans le zoo ?
Pourrais-je les voir ?
Je pense que c'est possible,
répondit Archie après un court silence. Bien que vous ne soyez pas a priori autorisé à visiter le parc zoologique, les aviens sont installés à proximité de l'entrée.
Archie fit une halte devant le premier bâtiment important du domaine de l'alternative. Il y entra et, à son retour, il s'adressa à l'autruchosaure.
La visite devra être brève, précisa-t-il quand leur monture s'engagea dans une ruelle.
Richard fut présenté au gardien du zoo, qui les conduisit dans une carriole vers un enclos situé à seulement une centaine de mètres.
Tammy et Timmy le reconnurent aussitôt et leurs jacassements emplirent la nuit. Les aviens lui montrèrent des oisillons, visiblement intimidés par le premier humain qui leur était donné de voir. Richard sentit sa gorge se serrer quand il caressa le ventre duveteux de ses protégés, puis leur fit ses adieux. Il remonta dans la carriole avec Archie et le gardien. À mi-chemin de l'entrée, un son étrange le fit frissonner. Il resta immobile et concentré. Cela recommença juste avant l'arrêt du véhicule.
« Je n'ai pas pu me tromper, » insista Richard.
« Rien ne ressemble aux pleurs d'un bébé. »
« Je ne mets pas ta parole en doute, »
répondit Nicole.
« J'essaie simplement d'éliminer les autres possibilités. Les cris des jeunes aviens sont proches de ceux d'un nouveau-né. Et comme tu étais dans un zoo, il pouvait s'agir de n'importe quel animal. »
« Non. J'ai eu suffisamment d'enfants autour de moi pour savoir de quoi je parle. »
Nicole sourit.
Voilà que les rôles sont inversés. Quand je t'ai dit que j'avais vu le visage d'une femme sur une fresque, le soir où nous sommes allés assister à la représentation de cette pièce édifiante, ne t'es-tu pas moqué de moi ? Tu m'as rétorqué que c'était absurde, si je m'en souviens bien.
Quelle est l'explication alors ? Les octopodes ont pu enlever des humains à Avalon, mais...
En as-tu parlé à Archie ?
Non. J'étais trop abasourdi. Je me suis simplement étonné que ni lui ni le gardien n'aient fait aucun commentaire avant de me rappeler qu'ils étaient sourds.
Nos hôtes ont commis une bavure.
Richard rit. Étant donné que des quadroïdes nous surveillent, ils sauront dès demain que nous savons.
N'en parlons pas aux autres. Les octos décideront peut-être de ne pas faire de vagues. Au fait, quand commenceras-tu à travailler ?
J'ai dit à Archie que je devais auparavant terminer certains travaux personnels.
Tu as eu une journée passionnante. Ici, tout s'est passé comme d'habitude. Si ce n'est que Patrick et Nye ont fixé la date de leur mariage. Dans 3 semaines.
Quoi ? Tu aurais pu me le dire plus tôt.
Tu ne m'en as pas laissé le temps. Tu es arrivé en parlant des aviens et du bébé du zoo, des quadroïdes et de la banque d'embryons. Je savais par expérience que je devrais attendre que tu aies terminé pour t'annoncer la nouvelle.
Qu'en penses-tu, la future belle-mère ?
Elle est ravie. Tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour Nye. Je trouve seulement que c'est un drôle de moment et d'endroit pour convoler en juste noces.